Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Allez, aujourd'hui, nouvel épisode avec Éléonore Nagia. Je suis très content de te recevoir. Je te reçois sur la recommandation de mon ami Thomas Bio, qui est déjà passé plusieurs fois sur le podcast, qui va même repasser bientôt sur le podcast, et qui m'a dit « il faut que tu reçoives Éléonore, elle a fait des trucs de dingue, des trucs de fou, elle a une belle histoire à raconter, voire même plusieurs à raconter ». Est-ce qu'il t'a bien présenté déjà mon ami Thomas, et puis est-ce que c'est vrai, t'as des histoires de dingue à nous raconter?
Je crois qu'il m'a un peu trop vendu là du coup. des histoires de dingue, je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle par dingue, mais ce que j'ai fait, le plus gros truc que j'ai fait, c'est mes deux traversées des Alpes, Monaco à Trieste et le retour de Trieste à Monaco du coup.
Ouais, parce qu'il faut bien rentrer à la maison.
Exactement.
Bon, déjà, comment vas-tu, Éléonore? On enregistre le 22 décembre. J'aime bien préciser la date d'enregistrement souvent parce que souvent, il y a des auditeurs qui vont peut-être nous écouter en 2030 et histoire de pouvoir mettre un petit peu de contexte. Comment vas-tu en cette fin décembre 2023?
Ça va bien. Ça va, ouais, ça va bien. C'est une bonne question parce que du coup, je suis rentrée de la deuxième traversée mi-octobre.
C'est
assez récent et je vis beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Donc je suis pas dans une période de dépression.
Trop bien. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Donc moi c'est Éléonore, j'ai 32 ans, j'étais ingénieure en agroalimentaire et je faisais de la rando quand j'étais petite avec mes parents, mais ça me saoulait un peu.
Comme beaucoup.
Voilà, et on s'est remise, j'ai eu une période de recherche d'emploi après mes études, et on s'est mise à faire un peu de rando avec une copine, et puis de plus en plus, voilà, jusqu'à ce que je me dise, c'est quand même pas assez 2 semaines, ça serait bien de partir 4 mois. Et voilà où j'en suis aujourd'hui.
Ça a été progressif, j'imagine,
Oui, complètement. C'est drôle parce qu'on a commencé... Donc, c'est une copine que j'ai rencontrée dans le Jura, que Thomas connaît aussi. Et au début, on partait à la journée. En fait, on s'ennuyait parce qu'elle était aussi au chômage. Donc, elle m'a dit un jour, ça te dirait pas de faire de la rando? Je dis ouais, carrément. Et de fil en aiguille, on a trouvé du boulot. Mais on a continué à randonner à la journée. Jusqu'à ce qu'un jour, on se dise, ça serait peut-être sympa de bivouaquer. Et ni l'une ni l'autre ne l'avions fait, donc notre premier bivouac était assez épique. Et ça s'est quand même bien passé, donc après ça, on s'est dit, et si on faisait le Gervin? Autant faire les choses bien, tu vois. Donc on est parti sur le Gervin, et puis après on a continué à faire pas mal de rando itinérantes, à peu près une par an.
C'était quoi vos premières erreurs, vos premiers couacs, les trucs que vous faisiez et que tu dirais maintenant?
Notre première erreur, c'est... on avait... forcément, notre premier bivouac, on savait pas si on allait aimer ou pas, on avait emprunté pas mal de matos. Notamment, j'avais emprunté le camping-gaz de mon père, que je ne savais pas faire fonctionner. Et on s'était dit, pour ce premier bivouac, que ça serait sympa de manger un cassoulet. Donc on avait emporté... une conserve de cassoulet. Alors jamais je referais ça déjà. Et arrivé en haut, on pose la tente et là on essaye d'allumer le camping gaz et on n'y arrive pas. Et on avait ouvert le cassoulet et en fait le temps qu'on comprenne comment ça marche, on avait quand même percé la bouteille, donc tout le gaz s'est vidé. Donc on s'est retrouvé avec un cassoulet froid sur les bras dont on ne savait que faire.
En enfer.
Donc on avait un Tupperware parce que ça c'était la deuxième erreur, c'est de partir avec beaucoup beaucoup trop de matos. Mais je pense que Tout le monde fait un peu ça au début. Un peu peur de manquer, peur de, voilà, de plein de trucs. Et donc, je crois qu'on l'a transféré dans un Tupperware et qu'on a mangé 2 tranches de pain de mie. Mais ça reste un super souvenir.
Mais c'est souvent ça, hein. Les erreurs comme ça, c'est les meilleurs souvenirs derrière.
Ouais, c'est clair. Non, en plus, on avait un super coucher de soleil. Ça nous a vraiment pas dégoûté du bivouac. Manifestement.
Mais cassoulet froid, quoi.
Ouais. Cassoulet froid, ouais. Mmh. Ouais, non, ça fait pas rêver. Quand t'as la boîte ouverte devant toi, tu dis, est-ce que j'ai vraiment faim? Je suis pas sûre.
Et ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était, je pense, en 2018, si je me trompe pas. Non, 2017. 2017.
On ok, a fait donc 2017, ouais. premier bivouac, et puis après, direction GR20, quoi.
Ouais, exactement.
Donc GR20, comment vous l'avez fait?
En 2018. Alors, comment on l'a fait Ouais, alors du coup, on n'a pas pris de réchaud. On a appris nos erreurs. On a pris la tente, donc on bivouaquait dans notre tente, mais à chaque refuge, et on mangeait dans les refuges. Voilà, et après, on a fait tranquille, quoi, une étape par jour. On n'était pas en mode sport, je dirais, et c'était trop cool comme ça. Après, avec le temps, on a appris à se servir d'un réchaud. On en a acheté un qui n'était pas un camping-gaz, déjà. Et maintenant, on part quand même en autonomie avec notre réchaud. Mais sur le GR20, en fait, on trouvait dommage de se trimballer toute la bouffe et le matos, alors qu'on savait qu'on allait dormir vers les refuges, parce qu'on avait vu que c'était interdit de dormir en dehors.
Ouais, ça, voilà. C'est une particularité du GR20 où tu peux pas dormir où tu veux. Enfin, c'est une particularité de beaucoup de massifs d'ailleurs, hein, où tu peux pas faire ce que tu veux, n'importe comment, n'importe quoi.
Ouais.
Et ça, je crois que c'est un bon conseil à donner, hein, de vraiment prévoir les endroits où tu vas te poser, parce que tu peux pas le faire partout comme tu veux.
Quoi. Ouais, et puis après, en plus, c'était notre première, et puis c'est la Corse, donc forcément, il y a un a priori sur les Corses. Enfin, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on respecte les règles.
C'est vrai qu'il y a cette peur un peu de voir ce garde débarquer dans la nuit.
Hein. De fou, ouais. Et après, honnêtement, quand on l'a fait, on s'est quand même dit, il n'y a pas non plus 1000 endroits en dehors des refuges pour poser. Le terrain, il est super escarpé. Et si tu connais pas, c'est quand même un peu aventureux, je trouve, d'y aller. Enfin, même s'il n'y avait pas d'histoire de réglementation et tout ça. Il y a certains spots, mais ils sont tout petits. Je sais pas si tu les vois sur une carte, qui est un tout petit endroit plat où t'as juste la place d'une tente. Et enfin, je pense que ça nous aurait rajouté un souci supplémentaire qui n'était pas forcément nécessaire à cette époque.
Ouais, surtout quand on parle du GR20, c'est vraiment un sentier qui est vraiment balisé de façon propre. Et puis, et les refuges, il y en a beaucoup. Les endroits où tu peux le faire, te poser ta tente, ils sont pas bien loin du refuge. Donc, quel est l'intérêt? Il n'y en a pas beaucoup.
C'est clair, ouais. Et puis après, il y avait l'ambiance, c'était vraiment chouette sur le GR20. Enfin, pour le coup, on a le fait de rester au refuge à chaque fois, tu rencontres les mêmes personnes et à la fin, tu te fais un petit groupe et c'était quand même super sympa. Je pense que c'est un truc qui nous avait vraiment plu à ce moment-là.
Ouais, le côté vous partez à quelle heure demain
Ouais, c'est ça. Et puis après, t'arrives, tu fais ton petit jeu de cartes et tu commences à connaître un peu la vie des gens et tout. Je sais pas, c'était chouette.
Donc ça vous a plu et donc là 15 jours pour faire le GR20, ouais. Pendant ce temps là t'as toujours une activité pro?
Ouais, là c'était vraiment juste des vacances, de toute façon j'ai bossé, ouais. En gros, donc ma première traversée je l'ai faite en 2021 et j'avais demandé mon congé sabbatique un peu plus d'un an avant, quasiment un an et demi, donc juste avant le confinement, en février, je l'avais demandé en février 2020. Mon congé sabbatique.
Ok.
Qui avait été accordé.
Et alors, tu vois, il y a un truc qui m'anime un petit peu en ce moment, là, comme j'organise le Grand Raid du Finistère, et que c'est un ultra-trail, on l'a presque le Crozon. Et l'année dernière, les nombres de participants étaient très faibles. Parce qu'il y a beaucoup de craintes qui sont souvent portées par les femmes. Et aller randonner pendant 15 jours à deux. T'en as forcément eu au début. Est-ce qu'elles étaient justifiées? Quel est ton retour par rapport à ces craintes que de nombreuses nanas ont?
Je l'entends. Déjà, moi, je trouve que quand on est deux, enfin, le fait entre être deux et être seul, ça n'a rien à voir. Et après, enfin, moi, s'il y a quelqu'un, que ce soit une autre nana ou un mec ou quoi, je vais tout de suite être plus rassurée. Enfin, alors que c'est pas forcément légitime, mais il y a quand même quelque chose de... S'il arrive quelque chose, on sera deux. Il y a peut-être une qui va pouvoir prévenir quelqu'un. Je sais pas, le fait d'être deux... Pour moi, il y a un côté rassurant. Après, toute seule... Alors ouais, quand je suis partie sur ma première vie alpina, j'avais jamais bivouaqué toute seule. Parce que j'avais toujours fait... Donc ma copine, là, elle s'appelle Jérôme. J'avais toujours bivouaqué avec elle ou avec d'autres gens, mais surtout avec elle. Donc la première nuit, horrible. et en même temps, si on s'arrête à nos peurs, on fait rien. Bon, ça, c'est un peu mon truc. Après, je pense qu'il y a des petits trucs aussi quand on a peur pour pallier à cette peur. Moi, je ne vais pas forcément l'utiliser, mais... Un truc qu'on m'avait donné, c'était une autre fille qui avait fait la vie alpina l'année d'avant. Qui m'avait dit, mais si t'as peur en fait et que t'es dans ta tente, ça marche que si t'es dans la tente, mais en fait, dis-toi que si une personne voit la tente, elle va pas se dire que c'est une fille toute seule. Et ça, je l'ai vérifié en fait la dernière fois. Parce qu'il y a un mec qui arrivait en VTT, moi j'avais posé ma tente, il arrivait du bas. Et il a d'abord vu ma tente et après il m'a vu, j'étais à côté en train de manger. Et il a eu l'air super surpris, il me dit, mais t'es toute seule? Et je lui ai dit oui, et après je lui ai demandé, quand il avait vu la tente, ce qu'il imaginait, il m'a dit, bah j'imaginais soit un gars, soit un couple. Et je me suis dit, ah bah ça confirme. Après c'est qu'un exemple, mais je pense qu'effectivement, vu qu'on est peut-être pas si nombreuses à partir bivouaquer en solo, c'est pas ce que les gens y pensent en premier. Donc je trouve qu'il y a peu de chances que si la tente est posée, qu'on est dedans, qu'il y a un souci... Et après, l'autre truc, c'est bah ça dépend où on met la tente. À partir du moment où je mets ma tente à plus de 2000 mètres d'altitude, qu'il y a que des bouquetins, des chamois, bah franchement, enfin, ce qui me fait peur, c'est le sanglier, quoi. C'est pas le risque d'agression. Par contre, là où je vais avoir peur, c'est si je mets ma tente à proximité d'un village ou d'une ville. Mais j'avais un peu moins peur cette année et je me rends compte que, moi, j'ai fait aucune mauvaise rencontre. Ça, je pense qu'il y a une part de chance aussi, mais je me suis jamais sentie mal à l'aise. Je trouve qu'il y a quand même un esprit montagne qui est différent de ce qu'on peut trouver en ville. Et je me dis aussi toujours que les prédateurs, ils sont là où il y a des proies. Donc, ça, des illuminés, ça arrive, mais j'ai quand même plus de chances de me faire agresser quand je rentre à 2h du mat dans Lyon. Que quand je suis en rando sur les chemins toute seule.
Je crois voilà. Que, quand, en fait, ça c'est ma croyance, mais ma croyance peut-être de mec, je crois que c'est tu disais que tu as eu de la chance, mais je crois qu'en fait, celles qui se font agresser, c'est celles qui n'ont pas eu. Enfin,
oui, oui.
C'est l'inverse.
Oui, hein. Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Carrément. C'est vrai. Ouais, 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 c'est clair. Je pense aussi, mais vraiment, je pense qu'il y a le côté... Est-ce que je le ferais dans la campagne, par exemple, je pense que je serais moins rassurée. Il y a quand même l'aspect montagne, c'est que moi, je suis quand même tout le temps dans la montagne quand je suis toute seule. Il est rassurant parce que je trouve qu'il y a quand même un état d'esprit qui est un peu différent. Et les gens qui te voient ont plus l'habitude de voir des randonneurs. Ils ont l'habitude de voir des gens qui bivouaquent tout seuls. Donc, ils vont moins être curieux de toi aussi, je trouve. Alors, il y en a, mais c'est pas de la curiosité malsaine. Après, les gens que tu croises, c'est sûr qu'une de leurs premières questions, c'est « mais t'as pas peur ?» Ça revient, mais tout le temps. Et du coup, moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est « peur de quoi ?» Et ça, c'est vraiment drôle, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils projettent leur peur sur toi. Et c'est trop marrant. Une fois, on m'a répondu « bah, du renard !» Et genre, c'était la première fois qu'on me disait ça, et j'étais « ok !» Alors, c'est un très bon exemple, parce que oui, je peux avoir peur du renard, mais que ça soit... C'était des mecs, en plus, qui m'avaient dit ça. Et du coup, ça m'a fait trop rire, parce que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont répondre « bah, que tu te fasses agresser ou quoi !» Et en fait, quand on retourne la question, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Et on a de bonnes surprises. Voilà.
Mais c'est vrai que ce que tu dis, tu vois, si jamais sur mes chemins, là, chez moi, où je vais promener mes toutous, je croise quelqu'un qui est dans une tente, enfin, j'habite à Quimper, donc...
Ok.
Je pense que je le prendrais pour un SDF. Alors qu'en montagne, ouais, tu te dirais, bon, bah, le gars, ou la fille, nana, elle est en périple.
Ouais. Bah ouais, ouais. Et après, tu vois des gens qui vont faire un truc en vélo, par exemple. Je pense que c'est pas le même, pareil, c'est pas la même chose, parce que tu poses pas ta tente aux mêmes endroits. Donc peut-être que, bon, si je faisais un truc en vélo, je pense que je chercherais plus longtemps pour me cacher, vraiment me cacher. Que là, ça pouvait m'arriver plein de, enfin, il y a plein de fois où j'étais pas vraiment cachée, où d'ailleurs on m'a vue et puis ça a pas posé de problème. Mais il y a vraiment, je trouve, ce côté d'être à côté de d'une entre guillemets, on va dire d'un gros village, ou d'être isolé.
Ah, c'est
Voilà.
un truc, là, c'est surtout la nuit que enfin, j'en parle régulièrement sur le podcast parce que c'est la crainte de ma femme qui va pas courir le soir quand il fait nuit autour de chez nous parce que peur de l'agression. Bon, il y a ce climat médiatique un peu anxiogène aussi qui est pour quelque chose. Et dès qu'il y a une agression qui se fait quelque part en France, bah, allez hop, c'est reparti. Ça remonte un peu les inquiétudes de tout le monde. Et c'est un peu la tristesse de ça, quoi, et qui du coup pendant l'hiver bah, passe son temps à la salle, quoi, pour
Ouais,
pallier à ça.
bah, je trouve ça trop triste. Je comprends, et en même temps, je comprends, et mais d'un autre côté, moi, j'ai pas envie de m'empêcher de vivre parce qu'il y a potentiellement un risque. Mais je comprends, parce que le jour où s'il m'arrive quelque chose, bah, je serais, ah, bah, j'aurais peut-être dû rester chez moi, et en même temps, je crois pas que ce soit ça qu'il faille faire, parce que c'est un peu donner du pouvoir aussi à la peur. Et en fait, c'est pas nous qui devrions pas sortir. Il faudrait que les gens soient mieux cadrés, je pense, tu vois.
Ouais,
Mais
complètement.
c'est un gros changement de société à faire, je pense.
On a enfin Alain Cailleux là, mon ami Alain Cailleux qui publie pas mal de contenu notamment avec son fils et puis il dit tout le temps qu'il faut pas lui projeter sur ses enfants les peurs irrationnelles d'adultes. Et
Ça, c'est
récemment,
vrai.
j'ai eu une expérience de ça avec mon fils qui a 6 ans et qui est en CP et qui fait des exercices à l'école d'intrusion, comme s'il y avait quelqu'un qui venait dans l'école. Alors, bon, c'est très bien qu'il fasse des exercices, mais lui, du coup, il est anxieux de se déplacer tout seul dans l'école depuis, quoi. Et tu te dis, est-ce qu'on fait de la prévention sur absolument tous les risques qui pourraient se passer? Bah, je suis pas sûr, tu vois. Il pourrait très bien chuter, enfin, un élève qui chute dans l'école, qui se fait une fracture des cervicales, est-ce qu'on leur apprend à faire un maintien-tête? Je suis pas sûr, quoi.
Pas
Tu
sûr non
vois?
plus.
Enfin, du coup, on choisit les exercices et les inquiétudes qu'on veut leur transmettre aussi, quoi.
C'est
Donc,
vrai.
ça, c'est un bon sujet, ça.
C'est un vaste sujet,
Bon, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, tu vois, la première fois, comment est-ce que tu as surmonté justement ces inquiétudes et ces angoisses qui sont enfin normales et toutes les peurs qu'on peut avoir, parce que ces inquiétudes et ces angoisses et ces façons de les surmonter, en fait, tu peux les transposer un peu dans tout. Tu sais, la peur de la première fois, c'est quelque chose qui existe pour tout. Tu vois, la première fois que j'ai enregistré un podcast, je peux te dire que j'étais en train de trembler et suer
Je
derrière
comprends
mon
tellement.
micro. Là, maintenant, au bout de 300, bon, ça va mieux, je le vis un peu mieux. Mais tu vois, comment est-ce que toi, tu vis toutes ces premières fois et comment est-ce que tu les surmontes pour les. Bah, j'imagine que tu l'as eu plusieurs fois, cette peur de la première fois.
Ouais, bien sûr. Bah, moi, ce qui m'aide, je pense, c'est d'avoir des récits inspirants. Donc, bah, par exemple, avant la première Via Alpina, j'avais lu un livre qui s'appelle Wild. Je sais pas si tu connais,
Non.
c'est l'histoire de Cheryl Strayed qui part dans les années 90 faire le PCT, donc le Pacific Crest Trail. Donc, c'est un sentier, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sentier qui rallie la frontière mexicaine à la frontière canadienne, donc sur la côte est des États-Unis, mais par les montagnes. Elle fait ça dans les années 90, elle a aucune expérience de la marche et pour autant elle y arrive. Et elle a 24 ans. Et donc ce livre, je l'avais lu peut-être 2 ans avant de partir, avant de demander mon congé sabbatique. Et en fait, moi, d'avoir ce genre de récit, bah, je me dis, ok, en fait, si cette personne, elle était capable de le faire, bah, peut-être que moi aussi. Et cette personne, qui plus est, en plus, elle partait de rien, donc même niveau que moi, quelque part, c'est pas une athlète depuis sa plus jeune enfance ou quoi que ce soit. J'arrive facilement à m'identifier parce que elle, dans son récit, elle fait tout pour qu'on s'identifie. Et je trouve des modèles de personnes qui sont auxquelles on arrive à s'identifier. et qui ont fait des choses un peu hors du commun, c'est hyper rassurant. C'est de se dire, bon, bah, cette personne aussi, en fait, elle a eu peur, et elle le dit dans son livre, tout n'est pas rose. Et bah, ok, peut-être que je vais avoir peur, c'est pas pour autant qu'il va se passer le pire. Et bah, peut-être que je vais pas bien dormir la première, la deuxième, la troisième, les cinq premières nuits. Mais y a pas de raison pour que ça se passe mal. C'est dans, enfin, après, c'est d'essayer de se convaincre que c'est dans sa tête. Et après, de le faire petit à petit, parce que j'avais jamais bivouaqué seule, mais j'étais en confiance par rapport au bivouac. J'avais très bien monté une tente avec Jérômine. La toute première fois qu'on y allait toute seule, on avait trouvé un endroit qui était quand même à l'écart. Après, on a fait d'autres bivouacs moins, dans des endroits moins isolés. On n'était pas rassurés, mais on a quand même vu que ça s'était bien passé, donc ça rassure. Le fait de faire, ça aide beaucoup. Et donc, sur les premières, les prochaines premières fois, se rappeler qu'il y en a eu d'autres avant, et que ça s'est bien passé, ça aide aussi, je trouve.
Ouais, voilà. Bien sûr, ça s'appelle l'expérience, quoi.
Ouais, ouais. Mais il y a toujours un moment qui est compliqué de se dire, bon, bah, allez, là, je m'en sens capable. Mais, c'est, ouais, voilà, je trouve que les modèles, et après d'avoir essayé par des petites choses, ça démystifie le côté effrayant.
Et alors, du coup, quand tu pars comme ça, est-ce que tu anticipes toujours ce qui peut se passer de pire? Tu vois, par exemple, quand j'ai reçu Guillaume Artus, qui a fait donc la Via Alpina.
Ouais, je vois que c'est, j'ai vu son
44 film. Jours, 8 ouais. heures et 45 minutes.
C'est un dingue, en yeux, totale hein, autonomie. Pas, ouais, trop
je
fort.
Je ne pas par cœur. tu vois, lui, quand je l'ai reçu sur le podcast, il disait, bon, bah voilà, j'avais visualisé dans ma tête absolument tout ce qui pouvait m'arriver de pire. Et comme ça, si jamais, peu une forme de préparation mentale, si jamais il m'arrive, je sais pas, je me casse une jambe, bah voilà, je sais que je devrais faire ça et ça. Est-ce que toi, tu anticipes comme ça tous les scénarios qui peuvent se produire?
Alors, mais pas du tout. non, mais c'est drôle, c'est un conseil qu'on m'avait donné aussi, avant la première, là, la même fille, elle m'a dit qu'elle avait fait ça. Alors, j'ai essayé, puis en fait, blocage total. Franchement, je m'imaginais... ça, pour le coup, moi, ça m'angoisse plus qu'autre chose, et ça serait presque un motif pour pas partir, entre guillemets, même si je pense que c'est bien de le faire. Mais moi, j'y arrive pas. Si je m'imaginais... avant la première, je discutais avec un copain... Il me dit, mais tu sais faire un garrot? Et puis alors, la panique totale, je me dis, oh là là, mais je sais pas faire un garrot. Puis alors, je commence à regarder une vidéo. Puis en fait, en regardant la vidéo, je me dis, je m'en souviendrai jamais, donc ça ne sert à rien. donc non, je le fais pas. Et je ne sais pas ce qui se passerait si le pire arrivait, du coup. Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je réagirais, puisque ça ne m'est pas vraiment arrivé. Après, j'essaye de préparer au max pour que la situation ne se passe pas, mais se blesser, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Des situations où je sais que je stresse, par exemple l'orage, bah oui, t'essayes de pas te retrouver dans la situation, mais il y a des moments où, en fait, quand t'es 4 mois dehors, ça arrive quand même. Et bah, tu fais comme tu peux. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est pas un conseil que je donnerais en tout cas, mais j'y arrive pas. Je crois que moi ça me stresse plus de me dire qu'il pourrait se passer ça et d'envisager toutes les possibilités. Ça va au-delà de peut-être mes propres peurs, c'est de me dire, ah, et puis il y a ça aussi, ah, il y a ça aussi, et il y a ça aussi. Après, ça s'arrête jamais, quoi.
Donc, des fois il y a des choses qui peuvent se produire, des angoisses que tu peux avoir que toi t'imagines même pas, et que quelqu'un qui serait peut-être plus angoissé sur un sujet, tu vois, comme tu disais ton exemple du renard là tout à l'heure, toi des trucs auxquels t'aurais même pas pensé et qui pourraient se produire et que du coup t'aurais pas préparé, et du coup tu te retrouverais un peu démuni. Et pourtant ton côté ingénieur pourrait prédire que tu aimes tout programmer, anticiper, gestion de projet, quoi.
On pourrait.
Mais non.
Non, mais après, moi, quand je marchais avec une balise. Donc, je me suis quand même dit, bon, s'il m'arrive... Après, il faut quand même que je puisse envoyer le signal, mais c'est un signal GPS, il y a quand même... À moins d'être vraiment au fin fond de la forêt ou au fin fond d'une gorge, ça passe quand même assez souvent. Donc, je me suis dit, en fait, je sais pas faire un garrot, mais j'appellerai les secours, en fait, si vraiment il faut. Donc, j'avais quand même une solution de repli. C'est pas non plus comme si je partais sans rien. Puis après, il faut peut-être aussi un peu se faire confiance. Je sais pas, c'est l'occasion de découvrir sa capacité. Je sais pas, c'est une bonne chose, mais... Mon côté ingénieur, j'étais plus sur la préparation. mais la préparation matérielle pour essayer que tout se passe bien et que bah, ce genre de situation, si possible, ne se produise pas. Donc je dirais que c'était plus sur la préparation, mais matérielle ou physique ou voilà, mais pas trop mentale et pas trop préparation de l'imprévu. En
Alors,
même
comment
temps,
on se prépare
comme son nom
physiquement
l'indique, l'imprévu, ça se prévoit pas.
C'est ça. Ouais. Puis quand on le prévoit, on espère qu'il se produira jamais.
Ouais,
Comment tu te
clairement.
prépares physiquement à faire 2600 km, 150 000 de dénivelé?
Alors, il y a 2 ans, j'étais repartie sur un espèce d'entraînement marathon. J'avais fait un marathon en 2019. Et après avoir fait ce marathon, j'avais marché. Je trouvais que j'avais une super forme et tout. Donc ça, c'était en 2021. Il y a eu le Covid, tout ça, donc mes 3 fois par semaine sont un peu déviées, donc je courais un peu, mais pas non plus tant que ça. Donc en fait, la première fois, je me suis pas beaucoup entraînée, mais ça s'est quand même bien passé. Après, j'avais pas d'objectif de temps, donc je m'étais dit, ça sera 4 mois, ça sera 5 mois, peu importe. Et le corps, après, il s'habitue quand même au rythme de marche. Et un conseil super bien qu'on m'avait donné, c'était de commencer pas trop vite les premières journées. Et je l'ai appliqué, je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidé sur la première. Et la deuxième, j'ai pas fait de préparation spécifique, mais je faisais beaucoup plus de sport. C'est-à-dire que donc à cette époque, j'allais au boulot, donc mon boulot il est à plus d'une heure en vélo, donc je y allais 2 fois par semaine, donc ça faisait 2 heures, 4 heures de vélo dans la semaine. J'allais à peu près 2 fois à l'escalade. Je faisais un peu de fitness, enfin renfo cardio. Je sais pas, 3-4 séances par semaine. Je fais de la danse et j'essayais d'aller à la piscine une fois par semaine. Donc en fait, j'avais pas. Je me suis dit, vas-y, ça va suffire. Et ça suffisait.
Bah, tous les jours, tu as une activité physique, quoi.
Ouais, quasi.
Ouais, déjà,
Quasiment,
faut
ouais.
pouvoir les encaisser, hein.
Ouais, bah après, ça se fait. Quand tu rajoutes petit à petit, tu le vois pas trop venir, quoi. Enfin, ça se fait bien. Et puis je me pense, enfin c'était pas tous les jours, je pense que le week-end, et puis le week-end j'en profitais pour dormir et me reposer et tout aussi. Je casais beaucoup dans la semaine et je me reposais un peu le week-end. Et donc du coup
Il y en a
ça a suffi.
certains qui utilisent le week-end pour les sorties longues.
Ouais, je sais.
Toi, non.
Non, moi je fais la fête et je me repose. Chacun son rythme. Mais du coup, ça m'a bien servi et j'étais beaucoup plus en forme, bizarrement, cette année qu'il y a 2 ans. Je l'ai vraiment senti, j'avais beaucoup plus la caisse. J'avais fait des plus grosses journées, j'arrivais à les enchaîner. J'ai jamais eu de coups de mou. Enfin, vraiment, physiquement, la deuxième année était bien meilleure. Mais on se serait parlé à la fin de la première, je t'aurais dit que ça allait. Que mon entraînement il avait suffi. En fait, ça, c'est de la marche, hein, c'est pas non plus. Enfin, je veux pas minimiser, mais t'es pas sur un. Tu peux t'arrêter quand tu veux. En plus, j'ai l'attente, donc pareil, si j'ai envie de faire une petite journée un jour, je fais une petite journée et je me repose. Donc, le fait de juste de le savoir, c'est pas forcément de le faire, mais de le savoir, je trouve que ça aide beaucoup psychologiquement. Se dire, en fait, je suis pas obligée de me forcer. Donc, voilà.
Tu t'es jamais ennuyé?
Rarement. Ouais, c'est une bonne question. Ça pouvait m'arriver de trouver le temps long parfois, mais c'était rare. Et quand ça arrivait, en fait, c'est souvent quand il pleuvait par exemple, et du coup, faut marcher. Et bah, t'as 2 heures jusqu'au prochain refuge, par exemple. Et bah là, les 2 heures, elles sont interminables quand t'as une pluie torrentielle. Donc c'est plus que ta notion du temps, elle dépend beaucoup de la météo et des conditions, je trouve. Et dans ces cas-là, j'écoutais soit des audiobooks, soit des podcasts pour me motiver, parce que sinon c'est vraiment interminable. Par contre, j'en écoutais très peu s'il pleuvait pas. Et il y a toujours un, je sais pas. Je pense que j'ai un monde intérieur riche. Je sais pas.
Pas toute seule en fait.
C'est ça, exactement. Non, je pense que ça arrive quand t'as vraiment envie d'arriver à un endroit et que tu commences à être fatigué et qu'il te reste encore 2 heures. Et encore une fois, c'est la notion du temps, elle est toute relative. Tu vois, quand tu te dis, bah, je m'arrête quand j'ai envie, tu peux marcher facilement 2 heures parce que tu regardes le paysage, tu voilà, t'es en train de papillonner à droite à gauche. quand tu te fixes un objectif et que bah, tu comptes les minutes, ça passe beaucoup plus lentement. Mais ouais, après voilà, c'est que si je m'ennuyais, je commence à écouter un podcast. Et oui, un truc que j'ai pas dit, c'est que on m'a laissé pas mal de messages vocaux, de voice notes sur WhatsApp. Donc ça m'entretenait ma solitude aussi pas mal. Et moi j'en laissais. Donc ça tue l'ennui un peu. Et puis après, tu réponds pas forcément tout de suite, donc t'es en train de réfléchir à ce que tu vas répondre. Et ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Par exemple, le soir, par contre, je m'ennuyais jamais. C'était plus pendant les temps de marche. Hein. Mais le soir, on m'avait dit que j'allais peut-être m'ennuyer quand j'arrivais au bivouac et tout, mais jamais. Déjà, le temps de poser ta tente, de te faire à manger. Après, moi, j'écrivais mon journal. Ça prend pas mal de temps. Et après, j'avais ma liseuse et j'étais trop contente de lire. Après, tu regardes le paysage, en fait, juste ça, tu peux passer des heures sans t'ennuyer. T'as un beau coucher de soleil. Ouais, moi, je peux rester des heures.
Je t'admire.
Ah ouais? Pourquoi?
Ah ouais,
Tu t'ennuies facilement?
oh ouais, je pense que au bout de 3 soirs tout seul, je trouve un pote, je trouve une biquette qui me suit, je lui parle, enfin il se passe un truc quoi.
Ah, mais je dis pas que j'ai pas parlé aux animaux.
Ah bah voilà. Tu as fait lien avec une marmotte, qu'est-ce qui s'est
C'est
passé?
ça. Ah, j'aurais tant aimé. J'ai rencontré des gens qui arrivaient à créer des liens avec des animaux, mais moi non. Je restais pas assez longtemps. J'ai pas la patience, je pense.
Pourtant, la patience,
Mais ouais.
quand tu fais un périple comme ça, il doit en falloir un peu quand même.
Oui, c'est sûr, mais c'est pas. T'es en mouvement. Tu vois, quand t'es à l'affût des animaux, t'es statique. Et ça, c'est. Et tu dois attendre. Et t'attends quelque chose, mais tu sais pas quoi. Alors que moi, j'ai un but final et je suis en mouvement tout le temps. Donc c'est. Tu vois, c'est pas du tout la même patience, je trouve. À mon sens. Hein. Après, on a tous des perceptions différentes et j'entends que ça soit pas la même chose pour tout le monde. Hein. Clairement.
Tu vois enfin je pense que c'est une histoire de caractère aussi parce que
Ouais.
tu vois le Gervin, toi tu t'es dit je vais le faire, t'as mis 15 jours, moi je me suis dit je vais le faire, faut que j'aille le plus vite possible, que j'arrive au bout, j'ai mis 3 jours, voilà.
Ouais, mais c'est des approches différentes. Et moi, je vais te dire, mais est-ce que tu as vu quelque chose? Mais c'est si dommage.
Ouais, bah si, quand t'arrives en haut, tu t'assois, tu regardes, c'est bon, t'as vu, tu redescends.
Ouais, t'es dans la contemplation, quoi.
Ouais, voilà, le côté contemplatif chez moi, il est assez rapide. mais je comprends en fait. Et puis peut-être que ça, tu vois, les personnes qui sont un peu dans le même caractère que moi, ça nous ferait du bien aussi hein, de se poser un peu et d'apprendre à admirer un peu plus les choses de façon un peu plus posée. Et puis peut-être que, tu vois, ça fait aussi. C'est quoi tes plus grands apprentissages sur peut-être la vie, si on veut parler un peu de philo et de prendre un peu de hauteur sur la vie en général, une fois que tu as réalisé ce genre de périple?
Waouh. Je sais pas si j'ai vraiment tiré des apprentissages. J'étais déjà
T'es
si
revenu
sage.
pareil, quoi.
Non, je rigole. Bah, pas pareil, je pense pas. Enfin, si, en tout cas, il y a 2 ans, je disais que oui. Enfin, je disais que j'avais pas changé. Et je pense que c'est après. Moi, je trouve qu'on s'en rend pas compte tout de suite. Et après, effectivement, en fait, ma vie, j'ai un peu changé plein de trucs dans ma vie. Et je pense que c'est quand même lié parce qu'il y a eu des réflexions que j'ai menées. T'as le temps de réfléchir en 4 mois hein, quand tu marches, même si tu penses beaucoup aux pratiques, genre qu'est-ce que je vais manger ce soir, où je vais poser ma tente, etc. Il y a quand même des moments où t'es un peu plus, ton esprit vagabonde. Mais enseignement sur la vie, franchement, j'aurais pas la prétention, je pense, de dire que j'ai pas eu de révélation. Mon enseignement, c'est que j'ai trouvé un truc que je kiffe faire et qui me rend heureuse, tu vois. Et que je serais vraiment contente si d'autres gens arrivent à trouver ce qui les rend heureux, parce que je trouve que dans la vie, il y a plein de gens qui sont pas animés d'un truc, d'une passion, tu vois. Et je trouve ça super dommage. Enfin, c'est super dommage. Je trouve que ça peut rendre tellement heureux que quand t'as trouvé le truc qui te fait kiffer, c'est vraiment chouette. Mais après, enfin, voilà, moi c'était la rando, ça pourrait être n'importe quoi, enfin, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Tu vois, je suis contente quand les gens ils ont trouvé un truc, au moins un truc qui les rend trop contents. Parce que du coup, j'arrive à me connecter en me disant, ah, bah, je comprends l'état de la personne, tu vois, quand elle fait ça. Voilà. Mais bah si, après je dirais si, si, ok. Je réfléchis à voix haute,
Non, mais c'est bien, tu vois, que dans ma position de laisser des moments de blanc
mais
comme ça, tu vois, hop, là, il y
je
a le petit
sais, je sais. Et en plus, je continue à parler, je m'embourbe et tout. C'est sympa.
Non,
Non,
mais
non, si, si,
c'est
si.
exactement pour ça que je te laisse réfléchir tranquille et tu vois, hop, là, ça y est, c'est venu.
Si, si, ouais, non, si, c'est. C'est, mais c'est un peu ce qu'on disait sur les peurs et sur les premières fois. C'est quand on a. Il y a des choses qu'on a très envie de faire et on n'ose pas. Et moi, ce que ça m'a appris là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont des barrières mentales. Et bon, au début, je n'osais pas le faire. Alors déjà, je me sentais pas capable et tout ça, mais il y avait plein de trucs, je me disais. Enfin, en pratique, ça sera pas faisable. Ou les gens, ils vont trop mal le percevoir. Je vais demander mon congé sabbatique, il va jamais être accordé, ou alors pas dans les bonnes conditions, pas à la période où je veux, etc., etc. Et en fait, quand tu commences à, en fait, et ça, c'est un peu des excuses que tu te mets parce que tu as peur de le faire. Mais c'est, du coup, c'est ce que j'appelle un peu les barrières mentales. Et quand tu commences à creuser, tu les adresses une à une, et tu vois que ça se passe bien, t'es là, ah. Ok, donc en fait, mon congé sabbatique, il est accepté sans problème. Tu sais, t'en parles à tes parents. Moi, je pensais que mes parents, ils allaient pas du tout me soutenir. Et en fait, leur réaction était incroyable, tu vois. J'étais, ah bon, ok. Donc en fait, maintenant, c'est plus que moi et ma peur de faire le truc et de pas y arriver. Et ça, je trouve que ça peut s'appliquer dans plein de trucs de la vie. T'oses pas faire un truc et tu dis, oui, j'ai pas assez d'argent, oui, j'ai pas assez de temps, oui, j'ai pas ci, pas ça, pas ça, pas ça. Je crois que c'est dans la tête la plupart du temps. La plupart du temps. Après, ça dépend des situations, mais voilà. Je dirais quand même que s'il y a eu ça.
Ouais, c'est vrai, et en même temps, il y a un temps des fois aussi pour
Ouais.
tout, et il y a des moments dans la vie où bah c'est peut-être pas le moment quoi.
Non, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis
Mais
la plupart du temps. Mais à
ouais.
un moment, quand t'as vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire, tous ces trucs-là, tu vas trouver une solution. Tu vois?
Ouais.
C'est ce que je pense, hein, mais en tout cas, moi, ça s'est produit, puis j'ai réussi à le faire une deuxième fois, alors qu'à la fin du premier, je ferais ça qu'une fois dans ma vie, et puis bon, finalement, voilà. Ouais.
Tu vois, quand tu me dis ça, j'imagine, tu vois, le moment où j'ai eu mon fils, si j'avais dit à
Ouais.
ma femme, bon, bah voilà, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller faire la vie alpinale à
Bah,
24
je
mois.
sais, et pour autant, il y en a qui le font, hein. Ça
Ouais, je
me
comprends
tue,
pas,
mais
mais
ouais, moi non plus.
ok.
Bah, ou alors, tu t'aurais pu partir avec lui et avec ta femme. Peut-être pas tout de suite, mais il
Je
y
te
a des
laisse aller la
gens.
convaincre, hein.
J'avais écouté un podcast justement. C'était un couple qui avait fait la traversée des Pyrénées avec une petite qui avait moins d'un an. Je sais plus te dire quel âge, mais genre 8 mois ou un truc comme ça, en bivouac aussi.
Bah non, mais alors ça, c'est des extraterrestres qui aiment
Ah,
pas
mais
dormir
c'est pour te dire que ouais,
et j'y crois
alors
pas.
elle dormait pas beaucoup, elle dormait pas beaucoup, mais encore une fois, barrière mentale, tu vois, tout est possible.
Non, 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 non.
Bah, après
Je veux
ok.
pas, j'aime trop dormir pour ça.
Je vois.
C'est mort. Non, non. Autant passer une semaine de nuit pourrie, bon d'accord, allez, à la limite, mais au-delà.
Ouais, eux c'était 2 mois du coup, ouais.
Oh non, 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 je veux pas l'entendre. Même l'entendre, c'est trop dur.
Mais lui dormait mieux qu'elle, hein. Ouais.
Ouais.
Bah parce qu'elle devait l'allaiter,
Ah oui,
quoi.
c'était
Bon, bref.
l'allaitement,
Mais oui,
ouais.
ouais.
Ouais. Ah, c'est des histoires intéressantes, ça aussi. Il faudrait
C'est
que.
hyper intéressant, ouais.
Ouais. Ok, et
Mais
du coup,
voilà.
tu vois, quand on, enfin, j'ai reçu aussi sur le podcast des gens qui ont fait des traversées, genre pèlerinage jusqu'à Compostelle et tout. Et ces gens qui te racontent leur histoire, ils te disent souvent que les gens qui croisent sur le pèlerinage, sur le sentier, ils ont tous une raison d'être là. Ils ont tous une histoire de vie qui fait qu'ils sont là, en train de faire cette traversée ou ce pèlerinage. Et toi, est-ce que tu as une raison particulière de faire ça, ou simplement le fait d'être dehors, à te défier personnellement, ça te suffit?
Ouais, non, j'ai pas de raison. Non, j'ai pas de raison. Bah là, enfin, je te dis, à part que ça me rend heureuse, mais ça, je le savais pas forcément après la première fois. Je crois qu'effectivement, c'était le challenge, quoi, de se dire, bah vas-y, je tente un truc où je pense que je vais pas y arriver. Mais si j'y arrive, ça sera incroyable. Et puis j'adore randonner, bivouaquer. 2 semaines c'est pas suffisant, mais enfin mes raisons c'était juste ça quoi. C'est juste et d'avoir lu ce livre là dont je parlais au début, Wild, où quand je l'ai lu je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment trop bien de faire ça quoi. Mais il n'y a pas de raison entre guillemets plus profonde que ça. Peut-être que je le découvrirai dans 15 ans, je sais pas. Je pense que
Peut-être
ça
dans
va,
10,
ça
ça pour
amène quand
ça.
même des choses quoi. Ouais.
Est-ce qu'il y a
Ouais.
des trucs qui te sont arrivés sur le chemin? Moi, j'appelle ça dans le podcast les moments what the fuck. Tu sais, c'est le truc qui t'est arrivé jamais, t'aurais prédit qu'il se passerait ça ou à ce moment-là, une rencontre, quelque chose.
Alors, ça me fait penser à une rencontre trop trop cool, mais c'est un peu long. J'avais rencontré donc c'était pas tout à fait. J'avais fait un petit sommet sur la première Via Alpina. Et j'arrive au sommet, j'avais un peu galéré à arriver en haut d'ailleurs. C'était tôt le matin, et là il y a un couple d'Italiens qui arrivent. Et bon, bref, on discute un peu, puis à la fin, je prends le numéro de la fille, parce qu'elle avait fait ses études à Trieste, et je voulais des bonnes adresses, tout ça. Et j'avais l'impression ce que je faisais les intéressait pas particulièrement. Et en fait, quand je lui ai écrit à l'arrivée, elle a été vraiment trop gentille. Ah oui, il m'avait aussi donné à manger en haut, donc j'étais trop contente. Chaque personne qui m'a donné de la nourriture, j'étais trop contente. Elle me dit, ah, je m'inquiétais de pas avoir eu tes nouvelles, voilà, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est donc ce couple. Elle m'a réécrit avant que je fasse la deuxième Via Alpina. Elle savait pas que je repartais la faire. Et ils sont venus me rejoindre sur la deuxième. Ils sont venus une première fois pour marcher un peu avec moi. Et elle est revenue une deuxième fois. Elle a fait 1 heure et demie de route pour qu'on mange ensemble le soir. Et elle est repartie. Elle a refait 1 heure et demie de route pour rentrer chez elle. Et on a passé juste 1 heure ensemble. Et elle m'a apporté plein de trucs à manger. Enfin, elle s'est trop occupée de moi. Et enfin, enfin voilà, improbable et incroyable. Et à quel point les gens peuvent être gentils. Et, bon, je résume, hein, mais et ça lie les deux Via Alpina. Et ces personnes, je pensais que je les reverrais jamais. En plus, ils habitent en Italie, mais du côté plutôt de Trieste, donc vraiment loin de la frontière française. Et vraiment trop, trop, trop adorable. Et après, bah, des rencontres, ouais, il y en a plein, des moments improbables. Ça, c'est celle qui me vient tout de suite en tête, en tout cas, je dirais.
Mais c'est incroyable ça, parce qu'il y a des gens comme ça que tu dois rencontrer et puis tu te dis, tiens, jamais je les reverrai. Et ça doit être dur des fois, ça, quand même, de se dire, bah, c'est un peu comme si tu vivais une fin de colonie de vacances tous les jours ou presque.
Ouais, c'est un peu ça, et en même temps, c'est le jeu. Ouais. Mais là, je me dis que c'est pas impossible que je retourne en Italie et que j'aille les voir. Parce que vraiment, ils sont trop choux, quoi. Enfin, ouais, vraiment trop mignons. Et ce qui est drôle, c'est la différence de perception que j'avais eue enfin, quand on s'est quitté. Bon, ils m'avaient quand même attendu dans la descente parce qu'ils voyaient que je galérais, et je leur avais dit que j'avais un peu peur. Mais je me suis dit, bon, bah, ok, ils sont sympas, ouais, ils sont juste sympas. Je les avais pas sentis emballés comme il y a des gens à qui tu peux dire, ah, bah, voilà, je marche, ça fait 3 mois et demi que je marche, et ils te posent plein de questions et ils sont à fond. J'avais pas forcément eu cette impression. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, elle a juste voulu être sympa, elle me laisse son numéro, ça se trouve, elle va même pas me répondre. Et en fait, à côté de ça, à partir du moment où je l'ai écrit, elle était trop, trop adorable et trop, trop à fond, enfin, elle m'a super soutenue, enfin, vraiment, cette différence de perception était assez marrante. Je l'explique pas trop, mais voilà, après, des rencontres, il y en a plein, donc c'est dur de choisir. C'est vraiment dur de choisir. Mais des moments what the fuck, je sais pas, tu te retrouves des fois toi-même tout seul dans des situations, t'as le cul dans les rhododendrons, et c'est parce que tu t'es mis tout seul un peu dans la panade, tu vois. Il y a un orage, les éclairs ils passent à 2 secondes de toi et tout, c'est pas très cool, mais voilà.
Fait des souvenirs.
Ouais, voilà, ça fait des souvenirs. Heureusement, c'est des souvenirs vivants, quoi.
C'est ça. Comment est-ce que tu as géré tout l'aspect, alors tu disais que tu l'avais vraiment bien préparé, tout l'aspect logistique, j'imagine que c'est assez important, enfin, quand tu vois des personnes qui partent sur un trail off allez, un peu plus de 100 km et qui mettent déjà un peu de temps à l'organiser, quand tu pars sur une traversée comme ça, alors j'imagine qu'il y a maintenant un peu de doc, un peu de...
Ouais.
Il y a du contenu pour aider à préparer tout ça, mais comment est-ce que toi tu l'as préparé? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Est-ce que tu as tout préparé, bien millimétré tes étapes?
Ouais, ça m'a pris du temps parce que je suis comme ça. Après, j'en connais beaucoup d'autres qui préparent pas autant et pour qui ça se passe très très bien. Donc ça, c'est vraiment une histoire de tempérament. La Via Alpina, elle est quand même... Ça fait combien de temps que ça existe? Ça doit faire 22 ans ou un truc comme ça. 2002, non, 21 ans que ça existe. Donc il est quand même assez rodé l'itinéraire. Bon là il a changé récemment, mais justement pour qu'il soit encore mieux balisé et tout ça. Et il est quand même fait à la base pour qu'à la fin de chaque étape officielle, t'aies un hébergement et un endroit où te restaurer. Donc en théorie, t'es jamais censé être vraiment sans solution. Après, moi, j'ai beaucoup préparé parce que je chéris mon indépendance et que j'ai pas envie de m'arrêter à un refuge parce que j'y suis forcée, parce que j'ai pas assez de vivres. Mais ça, c'est vraiment une histoire de tempérament et de comment t'as envie d'organiser ton voyage. Parce que c'est tout à fait possible de faire que en refuge ou de prendre que pour 2-3 jours de nourriture et de se dire, bah, dès que j'en ai plus, bah, je mangerai au refuge. Vraiment, tout est possible. L'autre truc aussi, c'est quand j'avais préparé en 2021, je ne savais pas si les refuges seraient ouverts. Donc j'étais quand même partie du principe qu'ils ne le seraient pas, pour éviter le pire.
Ah oui, à cause du Covid.
Ouais, à cause du Covid, ouais.
Okay.
Finalement, bah, en juin, c'était encore fermé, je crois. Et après, c'était quand même globalement ouvert. Ouais, j'avais pas eu trop de soucis par rapport à ça, mais quand je préparais... On était encore confinés. Enfin, j'avais commencé à préparer en janvier, février, je sais plus. C'était encore très incertain. Tous les restaurants étaient fermés, les frontières pareilles, donc c'était quand même assez incertain. Donc à ce moment-là, c'était aussi un peu une nécessité de préparer autant. Mais je l'ai refait pour cette année parce que j'avais bien aimé ma façon de faire. Voilà.
C'est vraiment deux, encore une fois, hein, des profils entre tout préparé, millimétré, ouais. Et tout, et partir un peu à la one again.
Quand je pars 2 semaines, je prépare rien du tout. Là, c'est vraiment parce que c'est long et que je suis seule. Mais à la limite, c'est juste d'avoir un peu les villages, quoi, pour savoir si c'est plutôt faut partir sur 3 jours de bouffe ou 7, parce que ça fait quand même une différence. Mais sinon, on verra bien sur le chemin, quoi. Je sais pas. Si je prépare trop, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais là, comme je suis toute seule, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation délicate. Donc, je préfère préparer pour que ça se passe bien. Et j'ai pas aussi envie de passer du temps sur le chemin à chercher à chaque fois qu'il y a un village et que j'ai du réseau où va être le prochain truc. Parce que c'est possible de le faire comme ça aussi. Mais c'est un souci que j'avais envie de m'enlever. Mais voilà, encore une fois, il y a tous les profils qui existent et ça peut se passer très bien, quelle que soit la manière de faire.
Ça me fait penser à mes vacances en camion aménagé. Ton histoire, c'est soit tu pars et puis tu te dis, bon, on verra bien où on dormira, mais du coup, tu passes du temps à chercher un spot qui est plutôt cool. Ou alors, tu regardes avant et puis tu réserves tous les campings et puis hop, tu te poses et puis fin de l'histoire.
Bah, là, je serais très clairement dans la première catégorie. Et du coup, c'est quoi ta façon de faire?
Alors au début, on était dans la team numéro 1 chercher des spots et puis passer des fois du temps et tout. Et plus ça va, et je crois que plus je m'en croûte et plus j'aime bien mon petit confort.
Ok.
et plus je prends l'option camping aussi de temps en temps. Alors pas sur toutes les vacances. Mais certaines dans l'année, on se dit, allez, on a aussi besoin de se poser, de se reposer. Et puis, en fait, le fait de chercher, c'est... je trouve que tu perds de l'énergie, tu perds un peu de temps. Et il y a un truc aussi qui, tu vois, pour moi, ce serait plus du style à un peu comme toi, dire bon, on verra bien. Mm. Alors que pour les autres, je suis très méticuleux dans la façon d'organiser et j'essaye de tout anticiper, de prévoir plan A, plan B, plan C. Et j'adore ça. De se dire s'il se passe ça, je saurai répondre efficacement à tel ou tel problème. Mais bon, il y a une histoire de responsabilité aussi.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire.
Tu portes un peu le risque aussi sur tes épaules et du coup, tu es obligé d'avoir des réponses, quoi.
Je comprends complètement.
Mais non, c'est intéressant toutes ces façons de faire. T'as eu des moments de... Parce que tu vois, en 4 mois, des difficultés, j'imagine que t'en as croisé un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit « Ah, là, ça va être compliqué d'aller au bout
?» Non. Non, la deuxième année, en tout cas, non. Vraiment, non. À part... Ouais. Le début, j'ai eu un peu une mauvaise météo. Je me suis dit, ça part déjà comme ça. Qu'est-ce que je fous là? Mais je me suis pas dit que j'allais abandonner ou quoi que ce soit. Et la première, il y a aucun moment où je me suis dit que j'allais abandonner. Après, j'ai eu beaucoup de mauvais temps sur la première. Et il y a un moment où c'était fatigant, où j'ai eu des moments vraiment de baisse de morale. Mais pas au point de me dire j'abandonne ou est-ce que je ferai pas encore une semaine et j'arrête et puis la semaine suivante se passe bien, tout ça. Parce que à chaque fois, il y a soit une rencontre, soit quelque chose qui fait que dans ta journée, il va y avoir quelque chose de cool en fait. Et à chaque fois, il y avait comme un tout petit rappel de bah en fait, je suis là pour ça, tu vois. Non, ça se passait bien. Après, j'ai de la chance aussi parce que j'avais pas spécialement d'ampoule. Tu vois, physiquement, ça allait quand même plutôt bien. Donc, les autres soucis, bah, tu vois, tu trouves une solution, mais jamais rien d'irrémédiable. Et j'avais tellement l'impression d'être à ma place que je me voyais pas. La question s'est pas posée, quoi.
Et quand tu reviens d'un voyage comme ça, est-ce que t'es pas déconnecté avec le retour à la vie entre guillemets normale?
On se réhabitue très vite quand même. Je dirais oui et non. Le retour, il est quand même dur. Moi, le premier retour, il a été vraiment dur. Il a été un peu violent. En plus j'habite en ville, donc tu vois, je passais quand même d'un univers très calme à beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de pollution.
Foutez-moi la paix.
Ouais, de fou. T'as tout compris. Non, le premier retour, il était vraiment dur. Puis tu sais plus. En fait, pendant 4 mois, t'as eu un but, tu savais où t'allais, tu savais ce que t'allais faire, puis là tu reviens, et puis en fait, tu sais pas forcément quoi faire tes journées, puis j'ai pas repris le boulot tout de suite. Donc tu te laisses vite aller, mais après, d'un point de vue par exemple dans la société, enfin je sais pas, avec mes amis et tout, très naturel quoi, tu reviens comme si t'étais pas parti quasiment. Enfin, moi en tout cas, ça m'a fait ça. Et là, la deuxième fois, ça me le fait aussi. J'étais super contente de revoir tout le monde. Et ça... Ouais, un peu comme si j'étais pas partie. Et cette année, ça se passe mieux, le retour. Mais parce que je suis pas du tout dans la même situation qu'il y a 2 ans. Et je l'ai anticipé psychologiquement, je pense. Je me suis dit, il faut absolument pas que je retourne dans ce truc-là. Donc déjà, tu ne te laisses pas aller en revenant, tu continues à faire du sport. Parce que le fait aussi de passer à des journées où tu marches en permanence et tu reviens chez toi, t'es un peu fatigué, donc tu fais vite plus rien. Je pense que ça joue aussi beaucoup sur le moral. Donc là, je ne suis pas tombée dans ce travers cette fois-ci. Donc ça va mieux. Mais oui, il y a toujours un moment où t'es un peu déconnecté.
Ah, c'est intéressant ce côté retour à la vie. À la vie réelle, entre guillemets, à la vie normale. Et finalement, tu te rends compte qu'en 4 mois, il ne s'est pas passé grand-chose.
Bah ouais, voilà. Non, franchement non. Ouais, bah t'as des potes qui ont acheté une maison, tout ça, ils ont emménagé, mais c'est pas non plus une grosse... Non, en 4 mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Et puis après, encore une fois, j'ai changé beaucoup. Donc j'étais déjà un peu au courant au fur et à mesure de ce qui se passait. Tu vois. Donc, ouais, le monde tourne très bien sans toi.
Là, j'avais animé une conférence avec Marie Léauté qui a fait un tour du monde en courant. Son livre, d'ailleurs, est sorti depuis.
Ouais.
Et qui disait, bah ouais, c'est pareil, elle était formation dans la finance, donc elle est très carrée et tout.
Wow.
Elle avait prévu toutes ses étapes, faisait un marathon par jour. Euh,
Ah oui.
et, et du coup, tu te dis, quand t'arrêtes, bah, tu vas pas faire un, tu vas pas continuer à faire un marathon, tu pars pas de chez toi et tu fais pas le tour du monde. T'as plus le truc point A, point B, quoi. Du coup, tu peux vite te laisser aller. Et c'est un bon conseil, ça, du coup, que tu donnes de dire, bah non, faut continuer à rester dans une activité physique.
Il
Enfin,
faut le faire tout de suite.
le corps, il comprend pas, quoi.
Ouais, il comprend pas, et ta tête non plus, je crois, aussi. Parce que ça joue, moi je trouve que ça joue quand même beaucoup, en tout cas moi, sur mon humeur. Et t'as quand même très vite fait de te dire, vas-y, j'ai quand même besoin peut-être d'une petite semaine de pause. En fait, je crois qu'il faut. Ou alors t'es très fort et tu sais qu'au bout de la semaine, tu vas t'y remettre, mais si tu fais une semaine, moi j'en fais deux, j'en fais trois, et c'est fini, tu vois. Et après, se remettre, c'est beaucoup plus dur. Et en plus, là, il y a un peu le côté. T'es quand même bien en forme, donc quand tu te lances dans un truc, ça se passe bien et c'est assez satisfaisant, tu vois. Parce que t'es un peu plus en forme presque quand t'es parti. Du coup, ta séance, elle va t'arrêter un peu plus facile et tout, mais il faut juste se motiver à le faire. C'est le plus dur.
Tu disais que tu avais écrit un journal de tes journées, du coup,
Ouais.
un truc que tu tenais quotidiennement, une sorte de journal intime, j'imagine.
Ouais,
C'est
exactement.
tu l'as écrit pourquoi et qu'est-ce que tu comptes en faire de ce contenu?
Je l'ai écrit parce que j'ai pas envie d'oublier cette expérience. Mais alors, je sais pas. Peut-être qu'un jour j'écrirai quelque chose et que ça me servira de base à mes souvenirs parce qu'il y a des trucs que j'oublie. Mais c'est ouais, c'est un journal intime. Après, j'écrivais presque tout. Enfin, je limite jusqu'à ce que à détailler ce que je mangeais, tu vois. Donc ça, c'est pas très intéressant. Mais je pense que c'est aussi pour le relire dans quelques années, me dire, ah oui, enfin, vraiment, il se passe plein de choses dans une journée et il y a plein de choses que tu oublies. Et j'avais vraiment, quand je suis partie la première fois, j'avais envie de tout retenir tellement c'était incroyable ce que je faisais pour moi. Je me suis dit, ah oh là là, j'ai envie de me souvenir de tout, ce qui est complètement impossible. Et même, je pense que dans ce que j'ai écrit, j'ai pas tout écrit parce que ça prendrait des jours et des jours. Et voilà, est-ce que j'en ferai quelque chose un jour? Ça serait bien, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, pour le moment, c'est dans un coin de mon ordinateur.
Tu ne veux pas le
Et
mettre
voilà.
sur Internet, ça pourrait servir à d'autres qui pourraient...
Ah non, non, mais par contre, c'est écrit comme je parle. Donc, à lire, ça va être très désagréable. Je l'ai pas mis en forme parce que ça prend déjà du temps. Sinon, tu vois, j'aurais fait un blog, mais j'avais pas envie de m'imposer cette contrainte où j'ai envie que ça soit agréable à lire. À partir du moment où tu présentes un truc à des gens, enfin, moi, j'ai envie que ça soit bien, tu vois, bien fait et que ça donne envie et tout ça. Et alors là, c'est tout l'inverse. C'est beaucoup trop, beaucoup trop du langage parlé avec pas assez de ponctuation. Donc, il faudrait que je le retravaille en tout cas, c'est sûr, et que je choisisse des passages parce qu'il y a aussi trop d'informations qui ne sont pas utiles. Enfin,
Tu crois pas que t'es en train de te mettre une barrière là?
Ouais, c'est bien dit. Je sais pas quoi répondre parce que c'est vachement bien vu.
Ça me fait penser à quelque chose que t'as dit tout à l'heure, ça, tu
Ouais, bien vu, bien
Non, après, on
Ouais.
n'est pas obligé de publier et de partager du contenu sur les réseaux, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais. C'est marrant ce que tu viens de dire, bah non, les gens ils attendent. En fait, t'en sais rien. Peut-être que les gens ils aiment
Ouais,
bien
c'est
lire le
vrai.
truc hyper authentique. Tu vois, je pourrais moi aussi me dire, tiens, les gens en fait, non, ils attendent un podcast où les questions sont ultra préparées, où
C'est
l'invité il a
vrai.
déjà les questions avant, il sait ce qu'il répond et tout. Alors que tu confirmes, je t'ai rien envoyé et puis je t'ai dit, ça va
Ah
être une
bah, je te
conversation
confirme.
classique, c'est
Les
pas
gens, ils vont
cadré.
l'entendre. Les gens, ils vont l'entendre direct que c'est pas
Ouais,
préparé.
bah oui.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'admets, je suis pas prête à franchir cette barrière tout de suite, du coup.
Et c'est OK, et c'est ok, ouais. T'as le droit. qu'est-ce que c'est la suite quand t'as fait deux fois la Via Alpina dans chaque sens c'est quoi, c'est l'Exatrek, Exatrek
hein. Non. En fait, donc la Via Alpina, historiquement, il y a 5 itinéraires. Donc il y a 2 ans, j'avais fait le rouge. C'est le plus long. Et de ce rouge, il y a 4 alternatives qui sont plus courtes. Donc là, ce que j'ai fait cette année, c'est la jaune, la verte et la bleue. Donc en combinant ces 3, ça fait à peu près la même distance que la rouge. Donc il me reste la 5e qui est la violette. Donc c'est prévu pour l'été prochain et elle ne fait, je mets des guillemets, que 1100 km. Donc là, c'est l'histoire de 2 mois, je pense. Peut-être un peu moins. J'espère un peu moins. Donc voilà.
Tu continues de... Je sais pas si tu l'as dit, mais je crois pas. Tu continues d'avoir une activité d'ingénieur agro ou pas ?
Non, ouais, non. J'ai démissionné. Ouais, non. Donc là, cette année, je suis partie. C'est pour ça aussi que le retour se passe mieux, je pense. C'est que je sais que je vais pas retourner bosser. donc non, j'ai fini mon boulot fin avril et je suis partie un mois après pour marcher. Donc voilà, et là ce que je disais quand je disais qu'il y a eu pas mal de changements dans ma vie, c'était notamment cette démission. Et mon idée là, c'est de commencer une formation en septembre 2024 en horticulture, donc rien à voir. Mais donc projet de reconversion, être un peu plus proche de la nature. Puisque bon, quand même, être du coup quand tu reviens et que tu repasses des journées devant un tableur Excel dans un bureau. Mais dans ta tête, t'as tes images de l'été dernier où tu marchais. Et... Ok, des fois t'étais sous la pluie, mais en fait c'était quand même vachement mieux que de faire des copier-coller. tu te poses quand même quelques questions, quoi.
Tu fais pas partie de ces gens un peu clichés dans une tour à la Défense qui partent élever des chèvres dans le Larzac ?
Ouais, carrément. Je suis carrément dans cette catégorie. J'assume, hein, c'est pas grave, il en faut. Il faut de tout.
C'est énorme quand même le nombre de gens qui a pour certains ça pourrait s'apparenter à un pétage de plomb.
Non, parce que quand j'avais pris mon premier congé sabbatique, mon idée c'était quand même de pas revenir bosser. Donc en fait, je savais déjà, ça faisait longtemps que ça me plaisait pas, que je me remettais en question, mais je savais pas trop quoi faire. Et je m'étais dit le temps que donc quand je vais revenir, je me garde quelques mois de congé sabbatique pour réfléchir à ce que je veux faire. Et je pensais naïvement que ça suffirait. Mais c'était trop court pour moi, pour trouver ce que je voulais faire et me lancer. Mais du coup, c'est pas un pétage de câble. C'est quelque chose que j'ai réfléchi pendant longtemps. Donc pour moi, pour le coup, c'est le fruit d'une longue, longue réflexion. Après, il y a peut-être des gens qui sont... plus spontané, mais moi c'est pas mon cas. J'ai besoin avant de me lancer dans un truc. Il a fallu un an et demi entre le moment où j'ai demandé mon congé sabbatique et le moment où je suis partie, tu vois. Donc c'est que j'ai besoin de, tu vois, de temps moi pour faire les choses. Alors qu'il y a des gens, il y a une fille qui l'a fait cette année là que je connais. Elle a demandé son congé, je sais pas, en février, puis elle est partie en mai, tu vois. Enfin, et elle s'était décidée 2 mois avant. Enfin, tu vois, on n'a pas forcément les mêmes. Moi j'ai besoin de temps pour faire les choses. Mais je rentre quand même dans la catégorie que tu disais.
Est-ce que tu dirais que finalement, là où tu t'es retrouvé professionnellement, t'aurais peut-être jamais dû t'y retrouver ?
Ah oui, mais complètement. Complètement, et en même temps, c'était écrit, c'est un peu con ce que je veux dire, mais c'était écrit comme ça, c'est-à-dire que à l'époque où j'ai choisi mon orientation avec les éléments que j'avais, l'environnement que j'avais, etc., etc., j'avais pas forcément d'autres choix à faire que ce que j'ai fait. Et tu vois, enfin, après, moi, j'ai évolué, ma façon de penser, elle a évolué, mes valeurs, elles ont évolué. Donc, je sais pas si ça aurait pu être vraiment différent. À part le fait que je trouve que, alors, je sais pas trop comment c'est maintenant, mais quand t'es au moment de choisir ton orientation, faut que tu choisisses tout de suite maintenant. Et ça va décider tout ce que tu vas faire après, et c'est hyper stressant. Et quand t'as pas d'idée, tu prends l'option par défaut, en fait. Voilà.
Donc tu es parti faire un bac S, prépa.
Bac S, prépa, école d'ingé. Voilà. Le truc qui te laisse le plus de portes ouvertes, le maximum de temps. Quand tu sais pas quoi faire, c'est ce que tu fais. Voilà.
Je connais bien.
Ok, je.
Et puis tu finis par faire des podcasts.
Trop cool. Bah, carrément mieux. Du coup, ouais. Bon, j'ai trop envie d'en savoir plus, mais peut-être pas le
t'as droit, hein.
Bah alors, vas-y, raconte.
Tu veux connaître mon parcours?
Ouais.
Ah, vraiment. Bah écoute, j'étais pompier de Paris. Enfin, j'ai fait un bac S option sport. Après, j'étais pompier de Paris pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Après, j'ai voulu avoir une vie de famille, donc j'ai quitté ça. Et j'ai repris un BTS assistant technique ingénieur. J'ai bossé chez Orange pendant 7 ans en tant que chargé d'affaires. Et comme toi, tu vois, dans un bureau, alors, j'étais très bien, hein, c'est une très bonne boîte, mais ça ne me correspondait tout simplement pas. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai toujours voulu être prof de sport, moi. Je voulais bosser dans le sport. Et j'ai découvert le trail et puis la création de contenu. Et voilà, maintenant, j'organise des événements et j'ai un podcast.
Trop cool.
Donc là, je te l'ai fait en 30
ouais,
secondes.
Ouais, j'imagine. Non, mais ça donne un bon petit aperçu. Et t'es mieux maintenant qu'avant? Tu regrettes pas?
Ah bah, sans hésiter, je reviendrai jamais en arrière. Alors déjà, le sujet du salariat, pour moi, ce serait compliqué. Ou alors, il faudrait trouver vraiment une boîte dans laquelle je suis aligné avec la façon de faire, la mission... tellement de choses en fait quand t'es passé à ton compte et que tu dois revenir au salariat où tu gères ton temps, tu fais des projets pour toi qui t'animent, si t'as plus envie de faire un projet parce que tu vois par exemple là j'ai enregistré un podcast où je parle tous les ans, je fais ça, un petit bilan et projet de l'année suivante. Et je fais le point un peu sur tout ce que j'ai fait, ce qui me plaît de faire, ce qui me plaît pas. Et il y a des choses qui me plaisaient de faire, comme de la présentation de produits en mode influenceur, qui aujourd'hui me plaît plus du tout. Mais par contre, continuer de raconter des histoires, j'ai toujours envie de le faire. Et de d'écrire des histoires avec des marques autour d'un produit et de les mettre en avant en vidéo ou en podcast ou comme on veut, ça par contre c'est quelque chose qui m'anime, mais de faire ce que j'ai fait pendant 5 ans, ça m'anime plus. Du coup, tu vois, je change comme ça, et ça, si tu es salarié et que tu n'es pas maître de ça, pour moi ce serait compliqué.
Ouais,
tu vois. Donc ouais, non, je reviendrai pour rien au monde en arrière. Même si tout n'est pas rose, hein, quand t'es à ton compte, c'est pas toujours en...
Je me doute.
Mais moi, tu vois, le côté se lever le matin et de pas avoir l'impression de bosser, c'est trop bien.
Incroyable.
Quoi. Trop, enfin...
Ah ouais. Là, c'est ce qui te plaît.
C'est ce que je dis à mon fils, le côté trouver pour toi, faut trouver... ce qui est un jeu pour toi et un travail pour les autres.
Classe.
Bon, pour moi, je m'amuse en fait. Et je suis payé pour ça. Mais c'est trop bien. Enfin...
C'est une belle devise.
Mais on pourrait en parler longtemps. Il y en a déjà à plus d'une heure d'enregistrement. Ouais. Et je voudrais quand même que, tu vois, avec toute ton expérience de rando maintenant que tu as, que tu nous partages peut-être les plus grands apprentissages que tu as pu faire de ces expériences, et que, tu vois, si jamais il y a quelqu'un là qui nous écoute et qui se dit, tiens, j'aimerais bien partir moi aussi pour une longue traversée, quels sont peut-être, alors tu l'as dit, de trop se charger, de prendre des équipements que tu connais pas, etc. Mais est-ce qu'il y a des apprentissages comme ça que tu as fait ou eu et que tu recommanderais à quelqu'un qui partirait pour la première fois?
Un truc qui me vient là, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais après on est tous différents là-dessus, donc c'est pas forcément un conseil, mais une observation que j'ai faite entre la deuxième et la première, je pense que je me suis mieux alimentée la deuxième. Et je pense que ça a aidé aussi sur le fait que j'étais plus en forme. Il y avait plein d'autres choses, mais je mangeais moins de... Bon, j'en mangeais quand même pas mal, mais quand même beaucoup moins de sucreries. Enfin, tu vois, vraiment de trucs qui t'apportent que... Enfin, qui sont que du sucre, quoi. Je pense que... Et trouver des trucs qui te font plaisir, tu vois. Si tu pars sur un truc long, je pense que c'est quand même bien, malgré tout, de garder des petits plaisirs. Moi, je pars toujours avec ma petite tablette de chocolat. Voilà. Indispensable, c'est ça mon conseil. C'est la tablette de chocolat. Enfin, pour ceux qui aiment le chocolat, évidemment. Ça, et puis après, bah, en fait, L'idéal, c'est de bien se connaître. Parce qu'encore une fois, tu peux partir très chargé si tu sais que tu as beaucoup de résistance physique. Mais si tu sais que ça va te fatiguer plus, bah, c'est un peu dommage de, si tu veux mettre les chances de ton côté, bah, je trouve que c'est mieux d'essayer de, peut-être de perdre un tout petit peu en confort, mais de gagner en poids parce que ça va te faciliter toutes tes journées. Mais ça, on est tous différents. Donc, il n'y a pas de. En fait, ouais, ce qui compte, c'est de se connaître. Mais. Généralement, tu te connais mieux après qu'avant.
Ouais, c'est ça.
Donc, avoir testé un peu avant, c'est quand même pas mal. Aussi, tester jusqu'où tu peux charger ton sac et tout ça, je pense que c'est déjà un bon début.
Bah, c'est l'expérience, encore une fois, et puis
Ouais.
de surmonter ses propres peurs ou les peurs que les autres veulent nous projeter sur nous, et puis d'y aller, de
Ouais,
ne
bah
pas
après,
y.
c'est faut
Voilà.
foncer, franchement, quand
Ça.
enfin, faut y aller. Ouais, faut pas hésiter, c'est tellement de kiff que. Et au pire, enfin, on peut pas regretter, parce que au pire, t'auras essayé, mais t'auras pas le regret de jamais l'avoir fait. Et rien ne t'oblige à aller jusqu'au bout, en fait, si t'as envie d'arrêter, mais au moins, t'as essayé. Ouais, je trouve que ça, c'est hyper important.
Et puis on reste quand même en Europe,
Oui, c'est
principalement en
clair.
France, avec des moyens de
Ouais.
secours qui sont quand même
Oui, c'est clair.
des villages assez régulièrement, enfin.
Ouais. Non, tu croises quand même du monde, hein. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre épisode et dont on n'aurait pas parlé, peut-être pour le clôturer?
Non, bah merci beaucoup à toi. Je vais te remercier toi et remercier Thomas quand même de nous avoir mis en contact. Mais sinon, non, rien de plus.
Eh ben écoute, moi j'ai adoré cet épisode. On parle pas souvent de la rando sur le podcast, et là c'était un peu l'occasion, et c'est aussi pour ça que je l'ai appelé l'instant outdoor et pas que café trailer comme il fut un temps. Et puis ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton histoire. Et puis je crois que tu fais des fois des petites conférences aussi. J'ai vu une vidéo YouTube où tu animais une présentation. Alors, je ne l'ai pas regardé en entier parce que je voulais pas connaître de choses avant de te recevoir. Mais.
Ouais, j'avais fait une conférence en mars à côté de Lyon. On m'a proposé d'en refaire une. Je trouve que c'est un peu tôt. J'ai bien aimé la faire finalement un an après la première parce que ça allait se décanter et ça laissait un peu les choses importantes ressortir. Enfin, finalement, ce qui m'était vraiment resté. Donc, je pense que si j'en refais une, ça sera. Il y a des chances que j'en fasse une. Mais ça sera sûrement plutôt l'année prochaine, je pense.
Ok, et eh ben écoute,
Voilà.
je te souhaite de belles aventures encore, et puis peut-être à bientôt sur un sentier, qui sait.
Ah bah avec plaisir.
Merci Eleonore, et puis à bientôt.
Merci à toi. Salut.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.